Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de l'Art du Débat, une émission un peu particulière. Face à moi, deux interlocuteurs qui ne vont pas me ménager, car je ne les ai pas ménagés, il est vrai. En fait, je vous rappelle que j'avais écrit un article très critique et très ironique sur le rapport sur les musées du XXIe siècle. Il se trouve qu'au Festival de l'Histoire de l'Art, je croise Jacqueline Edelman, que j'ai en face de moi. Bonjour Jacqueline, vous êtes conservatrice générale des musées de France, spécialisée dans les publics. Et j'ai en face de moi également Sylvain Amic, que les lecteurs de la Tribune de l'Art connaissent bien, puisqu'il est directeur des musées de Rouen. Et ils m'ont dit tous les deux, oulala, je n'avais pas compris du tout ce rapport, j'avais été très mauvais. Et je leur ai dit, bah, écoutez, venez en discuter au micro de la Tribune de l'Art, de l'Art du Débat, puisque la Tribune de l'Art se veut un lieu de débat, il est tout à fait normal que les personnes que j'attaque, entre guillemets, parce que ce n'était pas eux que j'attaquais, c'était le rapport, viennent à la fois se défendre, expliquer, et peut-être montrer, prouver que j'avais tort. Donc, pourquoi, qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit, en fait, effectivement, je n'étais pas très très gentil, puisque j'avais d'abord fait quelque chose qui était un peu facile, c'est-à-dire que j'avais tiré des phrases de leur contexte pour montrer qu'elles me paraissaient, d'une certaine manière... un petit peu, disons, ridicule, utilisant d'ailleurs ce que j'appelais une novlangue. Alors, je sais que Jacqueline Edelman a des arguments contre ce terme. Je signalais, par ailleurs, que les quelques propositions que j'avais pu voir ne me paraissaient pas extrêmement pertinentes, à part deux dont on pourra éventuellement, dont on pourra forcément reparler. Alors, par rapport à ce terme de novlangue, moi, je vous avoue que le rapport, dont je n'ai lu, il est vrai que la synthèse n'est pas... J'ai abandonné, hein, je vais vous avouer. Et je l'avais écrit d'ailleurs. Je n'ai pas lu les déclinaisons, l'approfondissement, les groupes de travail, etc. Mais c'est vrai que le rapport m'a beaucoup étonné parce que le principal reproche que je faisais, c'était qu'on ne parlait pas des collections. Alors, avant de parler de cela, des collections et de pourquoi il n'en parlait pas à mon sens, la novlangue, vous dites que c'est... On en a parlé un petit peu avant de commencer l'émission parce que vous êtes sociologue.
Oui, je suis sociologue. Donc en fait, c'est pas tellement de la novlangue que vous critiquez, c'est plutôt une langue qu'on emploie dans les sciences sociales avec des termes un peu techniques peut-être, des tournures de phrases, des points de vue, des argumentaires qui sont peut-être un peu éloignés, sans doute même, de ce que vous avez l'habitude de lire peut-être régulièrement, qui est plutôt de l'histoire de l'art. En même temps, c'est à la fois... un langage, probablement, qui peut surprendre. Et ça, c'est un peu les cloisonnements entre les disciplines. C'était pas, me semble-t-il, quand même, quand nous avons écrit et relu tous ensemble ce rapport, un langage technocratique, c'était pas ça. Je pense que c'est plutôt, effectivement, à la fois un point de vue qui est peut-être un peu décalé par rapport aux sujets qui sont traités dans la Tribune de l'Art, habituellement, point de vue, entrée dans le problème, et effectivement, une entrée dans le problème qui n'est pas d'abord les collections.
Alors justement, je me tourne vers Sylvain Amic, puisque Sylvain Amic est historien de l'art, conservateur, il s'occupe beaucoup des publics, on le sait également, mais quand on parle des musées du XXIe siècle, moi c'est vrai que j'attendais qu'on parle d'abord des collections. Or, ce rapport, sauf si je ne l'ai pas compris, et vous allez me dire que je ne l'ai pas compris, parle très peu des collections. Malheureusement, j'aurais bien aimé que quelqu'un de l'Association des conservateurs de France, des collections publiques françaises, puisse être là. Ils avaient publié dans la Tribune de l'Art un article où ils disaient eux aussi qu'ils regrettaient que les collections ne soient pas au centre de ce rapport. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons simplement d'emploi du temps. Sylvain Amic, parlez aussi au nom des conservateurs.
Non, moi je pense que les collections, c'est évidemment ce qui nous fonde. C'est ce qui fonde les musées, c'est ce qui distingue les musées de toute autre institution publique qui a vocation à faire de l'histoire de l'art, à présenter des expositions, il y en a d'autres qui sont aussi pertinentes, mais les musées ont une collection. Je pense que ce présupposé, c'est pas qu'il a été évacué, c'est que ce rapport, en fait, essaye de placer les collections dans une perspective... dans une partie d'usage nouvelle et d'assurer surtout la survie de ces collections à travers un siècle qui a d'autres préoccupations. Donc c'est ce que nous avons, je crois, tous voulu montrer. Et ce rapport, vous l'avez pas encore dit, mais il a mobilisé. On est deux ici, mais il a mobilisé énormément de monde. Ce qui nous a semblé, c'est-à-dire qu'il y a des entretiens avec des forums. Il y a aussi des groupes de travail qui ont été la cheville ouvrière de ce rapport. Mais ce qui nous semblait important à nous tous, c'est la perception que les musées en tout cas c'est une conviction personnelle aussi, sont à un tournant de leur histoire. Et que si nous n'agissons pas maintenant, le musée peut disparaître, la notion de musée peut disparaître. On voit bien la difficulté qu'il y a aujourd'hui à faire vivre, à continuer à faire vivre un modèle qui s'est beaucoup développé ces dernières années, mais qui aussi touche à ses limites. Et dans une société qui change à très grande vitesse, on a un vrai risque que les musées restent sur le côté. Donc, le fait même de s'interroger sur l'avenir des musées, c'est simplement s'interroger sur l'avenir des collections. Donc, si nous n'en avons pas parlé, c'est par peut-être omission involontaire, mais c'était bien la préoccupation centrale et première de tous les acteurs de ce rapport, c'était comment faire en sorte que les musées et leurs collections survivent au XXIe siècle et même trouvent dans ce XXIe siècle les ferments d'un développement.
Alors, Jacques Tideldman, peut-être que vous, on rentre dans le vif du sujet. Moi, je ne lis pas dans ce rapport quelque chose, un diagnostic ou des propositions qui permettraient au musée de survivre. Alors, je ne l'ai peut-être pas bien lu, mais quelles sont pour vous, justement, dans la manière dont vous avez écrit ce rapport et dans les différents chapitres, qu'est-ce qui, pour vous, est indispensable pour la survie de ce musée? Parce que je suis d'accord avec Sylvain Amic. D'ailleurs, plusieurs personnes qui sont déjà venues à ce micro sont conscientes du fait qu'il y a un problème par rapport au musée qui sont moins visités. Je pense quand même que les musées sont moins visités quand ils ne sont pas actifs. Je pense qu'un certain nombre de musées qui sont actifs, c'est ce que peut-être que vous allez me dire que vous avez écrit, mais ce n'est pas ce que je lis vraiment. Ils seront visités. Donc, quelles sont vos solutions?
Je pense qu'il y a objectivement la barrière de la langue, là, parce qu'en fait, tout ça est dit en long, en large et en travers dans le rapport. Je vais déjà reprendre ce par quoi vous avez terminé là il y a un instant, à savoir les musées sont de moins en moins visités. Ben non, pas du tout. Les musées, ils sont pas de moins en moins visités. Ils sont de plus en plus visités. Alors évidemment, ceux où il se passe peut-être pas énormément de choses le sont peut-être pas tellement. Mais aussitôt qu'il commence à se passer quelque chose, les gens viennent. Alors, c'est pas simplement de l'esbrouf, c'est pas forcément une exposition temporaire démentielle, c'est simplement une manière de faire du lien avec la population qui constitue l'environnement du musée. Et ça, je veux dire, on ne peut pas dire que les musées ne sont pas visités, ils le sont, et non seulement ils le sont en nombre d'entrées, mais à la limite, c'est même pas tellement ça qui nous importe, même si ça compte beaucoup quand même. Ils le sont pas simplement par les touristes étrangers, ils le sont de plus en plus par nos concitoyens, et nos concitoyens de toutes les catégories sociales. Mais si, il faut, là encore, il y a quand même un suivi des fréquentations d'une manière quantitative et qualitative au ministère de la Culture et dans d'autres endroits, qui montrent que ce goût pour les musées se diffuse et s'est diffusé très largement et à la faveur, en réalité, du travail qu'avaient réalisé les professionnels depuis une quarantaine d'années et singulièrement depuis une dizaine d'années. Donc, il n'y a pas de crise des musées. Voilà. On n'est pas parti d'un constat où on disait qu'il y avait une crise des musées. Il n'y a pas de crise de la fréquentation non plus. Il y a une nouvelle façon probablement de s'inscrire dans le contemporain. C'est ça la problématique. Et c'est pour ça que la question qui nous était posée, qu'avait posée à l'époque la ministre de la Culture Audrey Azoulay, quel musée voulons-nous demain ? C'était une question simple, c'est une question qui s'est posée dans différents pays, je pense notamment à la Suisse, hein, les plus récents à avoir rendu un rapport, mais c'est pas en partant d'une situation catastrophique, loin de là. C'est pas ce
Alors, je vais vous passer la parole, Sylvain, mais je vous voyais quand même, j'ai l'impression que vous n'étiez pas complètement d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de crise de fréquentation des musées, et en tout cas, c'est ce dont se plaignent beaucoup de professionnels et beaucoup de maires qui disent que leurs musées ne sont pas suffisamment fréquentés, beaucoup de conservateurs et directeurs qui disent qu'il y a un risque, même par exemple Pierre Rosenberg dit que les musées, il n'y a personne dans les musées sauf s'il y a des expositions, et encore dans certains musées effectivement en province, on voit quand même assez peu de visiteurs. Encore une fois, ça n'est pas vrai dans des musées qui font des activités, qui ont des nouveautés régulières, qui font des acquisitions, qui font des expositions, qui font des colloques, qui font des conférences. Mais malgré tout, alors j'allais dire, s'il n'y a pas de problème de fréquentation des musées, finalement, le musée est quand même là pour montrer des œuvres. Si les gens viennent, il n'y a pas trop de problèmes, finalement, Sylvain.
Non, les deux constats sont vrais. Moi, je pense que effectivement, les musées ont parcouru un chemin extraordinaire ces 30 dernières années. On a connu un vent de renouveau sur les musées, de rénovation, bien sûr, à travers toute la France, et de développement extrêmement spectaculaire de l'activité des musées. Certes, les fréquentations accrues, c'est vrai. Il y a eu des succès prodigieux, même, je dirais, en région, de rouverture de musées. Parallèlement, la loi sur les musées de 2002 a instauré la nécessité d'avoir des services des publics au sein de chaque musée labellisé Musée de France. Et on ne peut pas nier aussi le développement d'activités de médiation, de vulgarisation et l'ouverture du champ des musées vers des publics de plus en plus divers. Ça, c'est un constat que je crois que nous partageons tous. Pour autant, moi, je dirais que c'est toujours la bouteille, à moitié pleine, à moitié vide, mais je dirais qu'on a fait une partie du chemin, mais le pari n'est pas gagné. Voilà. Et l'impression que l'on a quand on travaille dans les musées, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire, ou le travail de Sisyphe, c'est comme vous voulez, ce que vous prenez dans la mythologie comme exemple. C'est tous les jours, ou Pénélope, voilà, c'est tous les jours, on remet l'ouvrage sur le métier et on recommence à la racine. Et je dirais que c'est plus l'utilité du musée qu'il convient de préserver et de rendre évidente à l'orée du XXIe siècle. Quelle est l'utilité du musée pour la nation? Quelle est l'utilité du musée pour les hommes et les femmes qui constituent ce pays? Et c'est cela que nous devons démontrer. Et ce rapport, d'abord, on ne le dit pas assez, ce rapport fait l'inventaire de l'inventivité des musées, des petits et des grands, de régions et de partout, de France et de Navarre, qui est un inventaire qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on voit que on est vraiment avec des passionnés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans ces musées et qui portent ces musées à bout de bras et qui sont sans cesse en train d'essayer des choses. Donc, il me semble qu'en la matière, on ne peut être que pour le pillage intégral de toutes ces solutions, de les mettre en commun, de les partager. Donc, il y a beaucoup d'inventivité, il y a beaucoup d'innovation. Mais, pour autant, la société évolue tellement vite et on est dans une culture du zapping et de l'entertainment qui va tellement loin que la question quand même de l'adaptabilité des musées à cette évolution se pose. Et pour cela, je pense que, par contre, on a une crise du modèle, c'est-à-dire un modèle de musée qui a été développé à partir des années 80, qui est le musée conquérant, le musée qui se développe, le musée qui s'agrandit, le musée qui se rénove, le musée qui achète, le musée qui fait des expositions de plus en plus extraordinaires. Effectivement, je pense que ce modèle atteint ses limites, parce qu'on ne peut pas continuer à grandir, on ne peut pas continuer à acquérir, on ne peut pas continuer à sans fin. Il y a un moment, non mais justement, j'en reviens aux collections. Il y a un moment, il y a des collections. Elles sont là. On a un existant. Et donc, je pense que dans un siècle aussi où on se pose la question du local, des circuits courts, de la proximité, mais redisons-le, il y a des musées à proximité de tout un chacun. Nous avons tous des musées à notre porte. Et dans tous ces musées, il y a des collections. Dans tous ces musées, il y a des professionnels. Et peut-être certains sont plus inventifs que d'autres. Mais en tout cas, il y a toujours une passion de préserver ce patrimoine. Mais il faut reconnecter la population, non pas simplement à travers l'événementiel, le spectaculaire, l'acquisition à 15 millions, l'agrandissement à 300 ou l'exposition à 13. Il faut aussi reconnecter la population avec son bien, le bien qui est le sien, qu'elle a financé et que ses ancêtres ont financé. Et c'est un travail qui n'est pas évident, et cette utilité du musée, elle est sans cesse questionnée et elle est fragile. Donc c'est pour ça qu'il faut la réinterroger et la réinventer.
Alors le problème, c'est que dans votre rapport, moi personnellement, je ne trouve pas de propositions très concrètes par rapport à cela. Si on prend un exemple, on pourrait prendre l'exemple du musée des Beaux-Arts de Rouen, je prendrais un exemple du musée des Beaux-Arts de Rennes, où il y a à la fois, vous dites, il faut des acquisitions, la plupart des musées, malheureusement, pour acheter, ils ont besoin d'avoir un certain nombre, ils ont assez peu de budget.
Oui, mais ils ont déjà des collections.
Non, mais attendez, pas... bien entendu, ils ont déjà des collections. Et bien entendu, il faut s'occuper de ces collections. Mais je prends l'exemple du musée des Beaux-Arts de Rennes, où je pourrais prendre celui du musée des Beaux-Arts d'Orléans aujourd'hui, mm-hmm. parce que ces musées des Beaux-Arts que je suis particulièrement, parce que je pense qu'effectivement, ils font un travail assez remarquable, ils s'occupent de leur collection,
oui.
ils sortent leur collection. Mais ils ne négligent pas en l'impôt.
Mais bien sûr, mais je n'oppose pas l'un à l'autre. Je dis simplement qu'il y a des collections qui existent.
Et qu'il faut s'en occuper. Et ça,
Je dis, ce n'est pas juste à travers le spectaculaire que l'on va gagner le pari. Parce que le spectaculaire, c'est comme la drogue. Plus on en met, plus on a du mal à suivre.
Alors là, je vais peut-être jeter une pierre dans votre jardin. À Rouen, puisque vous disiez que ce n'est pas spectaculaire. Alors, il y a à Rouen, tous les deux ans, un festival impressionniste.
Ou 4.
Voilà, c'est ça. Tous les 3 ans ?
3 ans, et nous passons à 4 ans.
Là, on est quand même un petit peu dans le spectaculaire, un petit peu dans le... Et vous avez, en ce moment, je sais bien qu'on a déjà parlé au Festival d'Histoire de l'Art, une exposition de Picasso. Là, on est un petit peu dans le spectaculaire. Donc, c'est un petit peu contradictoire, finalement.
Mais bien sûr, vous savez, on ne se désintoxique pas en une cure de désintoxication de 3 mois. Ça prendra des années.
Parce que ne pas faire des expositions spectaculaires qui n'apportent pas forcément grand-chose, mais travailler sur les collections... travailler
ce que
comme
faisons
vous faites,
aussi.
Est-ce que vous faites
ce que
aussi
fait,
sur
le, de très nombreux musées.
Ce que vous faites par le temps des collections et se recentrer sur ces collections, c'est une chose que la Tribune de l'Art n'arrête pas de préconiser.
Donc on est assez d'accord. Et dans ce rapport, justement, il y a des solutions pour replacer le musée au cœur d'une... Alors, je vais dire des mots qui vont vous paraître de la novlangue ou du jargon ou de la banalité pure, mais au cœur d'un pacte républicain. Le musée a une place dans notre pacte républicain. Et nous devons lui redonner cette place et nous devons la marteler parce que c'est ça qui fera que ce musée aura une raison de survivre. S'il n'a aucun intérêt, ni pour la population, ni pour les hommes politiques, et si finalement il s'agit de faire un bâtiment spectaculaire, des expositions spectaculaires, ou acquérir un tableau à 60 millions pour faire venir du monde, eh bien, la plupart des musées vont mourir.
Je n'arrive pas à comprendre quelles sont vos solutions pour ce musée du 21e siècle. Quelles sont ces solutions ? Est-ce que vous pouvez nous les décrire et nous les énumérer ? Parce que finalement, si vous ne voulez pas que le musée soit absolument à la merci d'un événement, soit uniquement poussé par des événements, qu'il soit uniquement poussé par l'acquisition à 60 millions, je n'en connais pas beaucoup qui fassent des acquisitions à 60 millions personnellement.
C'est même pas forcément les acquisitions qui font venir des gens. C'est pas du tout ça qui fait venir des gens au musée.
Ça dépend comment elles sont présentées, comment on communique autour d'elles, comment on va faire des expositions dossiers,
comment on les acquiert.
Je pense que les acquisitions, c'est une chose qui peut être très bien mise en valeur, mais encore faut-il savoir le faire. Jacqueline Hellman, quelles sont vos solutions ?
Je voudrais rebondir tout de même sur un petit point à la fois. Donc on est sur... Il n'y a pas de crise, il y a une fragilité. Mmh. C'est ce que Sylvain disait. Une fragilité qui est due à la fois à la situation économique, donc cette pression budgétaire qui pèse très, très fortement sur les établissements. Et puis, il y a la réforme territoriale aussi, c'est-à-dire un partage finalement des compétences entre l'État et les collectivités qui fait aussi qu'il y a aussi de la fragilité et du souci de temps en temps. Alors, la démarche qu'on a eue, c'était précisément, et c'est pour ça qu'on a rencontré un certain nombre de parlementaires, c'était précisément de les convaincre de l'utilité sociale de ces établissements. Ça, c'était une donnée de base. Une seconde donnée, moi, qui me semble importante et que vous avez un peu tourné en ridicule quand vous avez dans votre article, c'est quand on a écrit que finalement le basculement se fait après les attentats.
Ah oui, tout à fait. Oui, alors je vous laisse parler, mais simplement, je ne vois pas bien le rapport entre les attentats et les musées. Pardonnez-moi, hein, je ne le vois pas.
À part le fait que les musées ont été des cibles quand même d'attentats, hein. Ça c'est une chose...
Les musées français assez peu.
Là dernièrement Bardot, quand même,
il y a eu le Bardo, les musées, les salles de spectacle...
Il y a eu le musée juif de Bruxelles, et il y a eu le Louvre, il y a pas si longtemps
que ça, mais je pense que les attentats...
Mais c'est pas ça, laissez-moi terminer là-dessus. La question des attentats, c'était, et au moment de Charlie, en réalité, il y a la vague d'attentats du mois de novembre, mais la première vague d'attentats, je laisse qui précède, hein, je crois que vous n'avez pas du tout pris conscience de l'émoi que cet attentat a aussi suscité au ministère de la Culture.
Bah, je pense que et je comment, partout, hein, excusez-moi.
Partout, mais je veux dire, comment ça a été aussi un questionnement de fond sur qu'est-ce que c'est que la politique culturelle et à quoi ça sert. Et c'est aussi une question que se sont posées les professionnels des musées, et c'est pour ça que je dis que c'est un moment de cadrage, et c'est surtout un moment de recadrage d'une certaine manière, puisque en fait, et même si on prend la loi 2002, et même si on prend le rapport, le livre blanc des conservateurs de 2011, et ou le rapport de la Cour des comptes sur l'autonomisation des grands musées, on est dans une vision des choses où, finalement, les paramètres importants, c'est l'économique, le numérique, l'international.
Et ça, c'est le modèle des années 80.
Voilà, on n'est pas sur les valeurs. Et tout d'un coup, et hélas, en réalité, hein, qu'on ait dû en passer par là, les attentats, c'est on remet le doigt sur les valeurs, sur le socle qui fait... que le musée a un sens, doit avoir un sens pour notre société,
c'est-à-dire,
pour
nos concitoyens. Et même une responsabilité.
Et une responsabilité par rapport à quoi, par rapport à qui?
Mais par rapport à nous tous. Et qu'est-ce que le
excusez-moi,
musée...
Vous donnez beaucoup de crédit aux terroristes, finalement,
non,
quelque
mais
part.
Pas du tout, mais pas du tout. C'est une manière de réaffirmer les principes de la création du ministère de la Culture. C'est une manière de réaffirmer les principes de la résistance contre la barbarie. Et c'est une manière de refaire le lien avec ce qu'a été le musée du révolutionnaire.
L'idée du musée
pour tous. D'une culture émancipatrice. Et je comprends même pas comment vous n'avez pas réussi à faire ce lien. Je suis désolé.
Je vais prendre un exemple. Très clair. On a entendu, et ça m'a absolument insupporté, effectivement, le ministère de la Culture dire les barbares ne passeront pas. Alors, il y a les musées d'un côté, il y a le patrimoine de l'autre. Donc, c'est un scandale, c'est monstrueux. Et effectivement, c'est monstrueux la manière dont les terroristes Daesh a détruit des ruines partout. Sauf que le ministère de la Culture me fait bien rire quand il vient donner les leçons aux autres, parce qu'il ne pourra rien faire. Je sais qu'on a donné une grande mission.
Il y a des choses qui se font. Peut-être que c'est un peu dans l'invisibilité. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour.
Le ministère de la Culture qui lutte contre le terrorisme en faisant un rapport sur les musées du 21e siècle ou qui vient faire la leçon sur la non-destruction du patrimoine, ça me fait toujours rire jaune.
On sait les positions de la Tribune de l'Art et les combats qu'elle mène sur la sauvegarde de certains édifices dans lesquels elle critique l'action des puissances publiques et parfois du ministère de la Culture. Donc on connaît cette position. Mais ça n'empêche que les musées sont quand même dans le dispositif qui est celui de notre équilibre national. Les musées ont un rôle à jouer. Et ils ont une responsabilité par rapport à ça.
Une symbolique, quand même.
Et tout simplement, s'il n'y a
pas attendu le terrorisme pour avoir une responsabilité dans la culture.
Non, certes, mais tout d'un coup, on a eu l'impression qu'un certain nombre d'établissements avaient perdu le fil de l'histoire.
Est-ce que les indicateurs, c'est simplement le développement économique, la recette, etc.
Est-ce que c'est le nombre des entrées?
Est-ce que c'est pas aussi le rôle que l'on joue auprès de tout un chacun?
Exactement. Alors, je vais vous dire, sauf qu'on n'a pas besoin, on n'a pas attendu, on n'a pas besoin d'avoir c'est pas une question de besoin.
Mais il y a le terrorisme. Qu'on n'a pas besoin.
Mais il y a quelque chose qu'on constate et qu'on déplore tous, je pense tous les trois ici autour de cette table et la plupart des personnes qui écoutent la Tribune de l'Art ou qui la lisent, c'est un déficit de culture qui est effrayant. C'est-à-dire que par exemple, à l'heure actuelle, la plupart de nos concitoyens ne savent plus ce que représente un tableau religieux, ce que représente un tableau mythologique. Et rien que pour ça, la citoyenneté autour du musée, elle a besoin de cela. On n'a pas attendu. Donc, c'est ce que vous dites, la culture, la civilisation, parce que ce que vous dites, en fait, c'est que le musée est un vecteur de civilisation. Oui. Et donc, on va l'opposer au terrorisme. Je suis désolé, mais les terroristes, ils en ont rien à faire de notre. Et c'est pas. On va pas les impressionner avec ça.
C'est pas le but.
En revanche, avoir une action citoyenne envers les Français pour qu'ils comprennent ce que c'est que leur culture, qu'ils comprennent qu'ils font partie d'un ensemble. On n'a pas besoin du terrorisme pour ça. Mais c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas, besoin du terrorisme.
Qu'on a réaffirmé
nous sommes parfaitement d'accord.
Dans ce rapport. C'est pour ça qu'on n'a pas bien compris pourquoi tout d'un coup vous l'aviez façon aussi aigre.
Pourquoi le terrorisme il me semble quand même.
Ça cristallise les choses.
S'il y a bien un lieu où l'on s'ouvre à l'autre, c'est bien le musée, où l'on découvre d'autres personnes, d'autres époques, d'autres organisations, d'autres représentations, d'autres populations. Donc c'est bien au musée que l'éveil à l'autre peut se faire de façon naturelle, de façon non conflictuelle, de façon aussi dans l'échange. Et donc, une des choses qui a été dite, pour parler des solutions, une des choses qui a été souvent dite dans ce rapport et dans les différents groupes de travail, c'est la place du musée dans le débat. Dans le débat, dans l'éducation, dans l'échange, dans la construction d'un savoir. Et ça, c'est quelque chose qui me semble fondamental. C'est pas forcément, j'enrichis ma collection, je la conserve et je la publie. C'est aussi comment je peux faire en sorte que, avec une collection, je sois capable de susciter des interrogations, de provoquer des retours sur soi-même, de donner des repères. Et moi, je pense que les musées ont ce rôle de donner des repères. Vous parlez d'une perte d'éducation. Peut-être, je vais pas discuter ça. Je dis simplement que s'il y a perte d'éducation, alors les musées doivent en rajouter encore plus.
On est d'accord.
Mais est-ce que dans les musées, je n'ai pas fini, dans les musées, si on prend le prisme de l'histoire de l'art, on donne rarement des repères pour comprendre l'histoire.
Alors, expliquez-moi quels sont les repères, quelles sont vos solutions pour les musées du XXe siècle. C'est quoi le musée du XXe siècle?
Juste un exemple. Hein. Combien de salles dans les musées de France sur l'orientalisme? Combien de salles dans les musées de France orientalisme où on a un discours sur le monde colonial, sur l'histoire coloniale? Notre responsabilité, elle est là. Elle est de dire j'ai un fonds patrimonial qui est intéressant pour des tas de raisons, pour des tas de raisons historiques, patrimoniales, pour d'exemplarité, etc. Mais au-delà de l'exemplarité de ce fonds, j'ai aussi des sujets que je dois être capable de traiter. Et on ne doit pas juste se retrancher derrière une espèce d'esthétisme ou effectivement la course à l'événement, etc. On doit aussi, dans les musées, donner des repères à la population, donner des repères aux enfants et être capable de provoquer et de gérer la rencontre des discours, la rencontre des mémoires et donc qu'on arrive à un résultat émancipateur, un résultat qui nous libère de notre déterminisme. Et donc on en arrive effectivement à la question du terrorisme qui ne fait que jouer sur les déterminismes. Donc on peut dire que c'est débile de parler de terrorisme dans ce contexte-là. Mais dans ce cas-là, alors disons que l'éducation nationale n'a rien à faire contre le terrorisme.
Mais oui, je pense que l'éducation nationale, elle a à faire pour éduquer les enfants. Et je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être devant un discours qui, moi, me semble assez étranger et assez étrange, où finalement, on va, parce qu'il y a un certain nombre de fous qui, quelque part, viennent faire des attentats en France. Tout d'un coup, ça change le musée. Je ne comprends pas bien.
C'est pas une histoire
c'est
de fou.
C'est pas tellement que
j'arrive
ça change.
Pas,
c'est
je
en
je
quoi
pas.
Ce
je,
sont
je,
des...
Je ne comprends pas votre
mais attendez,
discours. Et là, vraiment,
ça change, mais c'est en même temps comment ça nous fait réfléchir, comment ça nous fait de nouveau nous poser la question de à quoi servent les musées, à quoi sert la culture.
Moi,
c'est ça que ça pose comme question.
Il me semble qu'il y a des questions qui
donc,
sont...
Mais ce n'est pas la question des acquisitions, certes pas. C'est la question de
qu'est-ce
qu'on est capable de dire, qu'est-ce qu'on est capable de partager.
Concrètement, alors on parlait d'une salle orientaliste où on parlerait de la colonisation. Très bien, ok. Il y a des musées qui n'ont pas de salle orientaliste.
Non, mais je dis juste qu'aujourd'hui, c'était un exemple pour dire qu'aujourd'hui, avoir dans un musée une salle sur l'orientalisme sans parler de l'histoire coloniale, c'est une faute.
Le problème, on est en train de parler de transformer le musée de Beaux-Arts en musée d'histoire.
Simplement que la dimension historique dans l'histoire de l'histoire.
Bien sûr, on est d'accord.
Et que la dimension historique, elle doit être assumée.
Vous présentez, une œuvre de Delacroix au Maroc. Donc vous expliquez quoi sur votre cartel? Comment vous traduisez cela? Vous allez faire
parler de la mission diplomatique, quel était son objectif?
Oui, d'accord. Vous allez mettre quoi? Vous allez faire 200 lignes sur le cartel?
Quand
on fait une exposition,
Didier Ricard, il n'y a pas que du cartel quand même. Hein,
non, on est d'accord. Mais là, on parle de salle permanente.
Eh bien,
expliquez-moi comment vous organisez votre salle permanente autour de l'orientalisme.
Je dis juste que si je fais un texte de salle, même si ce texte de salle, le gabarit d'un texte de salle, c'est 1500 signes, eh bien, je suis capable, dans ma concision et dans le choix des thèmes que je vais avoir dans ce texte de salle, d'ouvrir l'essence de l'œuvre. Mais... Et donc de provoquer des interrogations, et de provoquer donc des échanges, de provoquer donc le dialogue, et donc de mieux se comprendre. Et ça, c'est du vivre ensemble. Et donc, on est bien dans une question de société et d'utilité.
Vivre ensemble, c'est un thème justement que je...
Eh ben oui, mais bien sûr que c'est galvaudé. Mais n'empêche qu'on en est là. Mais, ou non, mais quand même, c'est bien ce qui nous constitue. C'est bien en quoi les musées font partie de notre dispositif.
D'accord, on
n'est pas simplement isolé dans une sorte d'épiphanie devant l'œuvre d'art qui nous renvoie qu'à soi-même.
Mais
on est dans un dialogue.
Il est tout à fait normal d'expliquer et de raconter une histoire. Et moi, je suis le premier à dire, nous sommes d'accord, hein, il y aura un texte de salle qui doit expliquer ce que c'était que la colonisation, etc. Pas de souci. Maintenant, excusez-moi, mais ça ne me dit pas toujours pas ce qu'est le musée du XXIe siècle. Parce que le musée du XXIe siècle, c'est bien, on est d'accord, c'est un musée où les gens peuvent rentrer facilement, où ils peuvent voir des œuvres, où ils auront des explications s'ils en ont besoin,
oui.
Où ils auront des expositions ponctuelles. Quelle est la différence avec le musée du XXe siècle?
Eh bien, par exemple,
le musée qu'on connaît aujourd'hui.
Par exemple, ils peuvent débattre, ils peuvent donner leur avis, ils peuvent interroger.
Où ça?
Dans le musée, dans certains espaces.
Comment vous? Alors, vous faites quoi? C'est le débat, mais c'est un peu comme ce qu'on voit à Paris où Anne Hidalgo souhaite qu'on débatte dans la rue. Et on va se réunir et puis on va débattre. Je suis assez d'accord avec ce genre de choses. Il y avait une expérience de musée debout, par exemple, où on débattait, etc. Mais tout cela me paraît complètement, à la fois abstrait, à la fois. Vous débattez. Alors, comment débattez-vous? Vous organisez comment ce débat?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire du musée? Ça veut dire de quoi? Le fait qu'il soit ouvert à tous, qu'il soit accessible.
Il est ouvert à tous. Tout le monde peut y aller. C'est gratuit pour les enfants. Mais si,
il
est ouvert à tous.
Non.
Il est ouvert à tous.
Ça m'intéresse. Il n'est pas ouvert à tous.
C'est-à-dire, il est fermé à qui?
Il est fermé à ceux
à tous ceux qui ne sont jamais allés au musée d'eux-mêmes.
Attendez,
pas se permettre de payer une.
C'est gratuit pour les enfants, c'est gratuit pour les chômeurs, c'est largement gratuit.
À Rouen, c'est gratuit pour
tout
tous.
Voilà.
Oui,
donc,
pas partout et pas dans tous les musées nationaux. Non. Le tarif d'entrée est un frein à la visite.
Mais on est d'accord pour les musées qui ont payé 25 euros.
C'est pas ouvert, on va être très dans le trivial. C'est pas ouvert à n'importe quelle heure.
Ben non, c'est pas ouvert à n'importe quelle heure. Ça, je suis tout à fait d'accord et c'est très bien que ça soit pas ouvert à n'importe quelle heure.
C'est pas ouvert, les heures d'ouverture sont rarement raccord et notamment en région avec les moments où les gens auraient le temps de venir.
Vous ne me convainquez pas, les musées sont ouverts à tous.
Non.
Simplement, ce que vous voulez.
Laissez-moi terminer,
après je parlerai.
Qu'est-ce que ça veut dire ouvert à tous? Ça veut dire aussi que chacun, quelles que soient ses compétences, son projet de visite, la durée de la visite qu'il peut, les circonstances de la visite, le fait qu'il soit un amateur ou un touriste ou un dilettante, puisse se voir proposer un certain nombre de choses qui lui correspondent. C'est ça ouvert à tous.
Alors, qu'est-ce que
ça veut dire qui lui correspondent? Ça veut dire aussi des choses qu'il comprenne, qui l'intéressent et des choses qu'il comprenne. Donc, vous voyez bien que ça pose un certain nombre de conditions.
On parle de médiation, là.
On parle d'un musée qui est service culturel de proximité.
Alors,
c'est une première
condition. Ce que je crains, c'est que quand vous parlez d'un musée ouvert à tous, en fait, on est dans la vieille lune que... Il faut que tout le monde aille au musée. Eh ben non, s'il y a des gens qui ne veulent pas aller au musée, si on n'arrive pas à les convaincre d'aller au musée, ils n'iront pas au musée. Et est-ce que c'est dramatique? Moi, j'ai pas envie d'aller voir des matchs de foot au stade. On n'est pas obligé d'envoyer tout le monde au foot.
Est-ce que vous pensez que la sociologie des publics des musées, par exemple, c'est la même que la sociologie des publics de la piscine ou de la sociologie des publics de la bibliothèque?
Ou de l'opéra. Et pour autant,
bibliothèque, musée, piscine, ce sont les services publics. Simplement, il y a des gens qui se sentent illégitimes dans les musées. Et ça, ce n'est pas supportable. Pourquoi est-ce que des gens se sentent illégitimes dans les musées? Et on en est d'accord, il n'y a pas d'enseignement d'histoire de l'art, on n'a pas de repères,
on
est perdu, etc. D'accord. J'ai discuté avec le directeur du musée d'Indianapolis, qui est un musée qui est dans un grand parc, immense, 150 hectares. Il travaille autant sur le parc, avec par exemple des jeux pour les enfants qui sont dans le parc, que des théâtres de plein air, etc. Et si les gens viennent et visitent le musée, tant mieux, mais ce n'est pas... c'est d'abord travailler à ce que les gens viennent et se déplacent. Et que dit-il, le directeur de la police dit, voilà, on a fait plein d'études, qu'est-ce que vous voulez? Quand un garçon veut sortir avec une fille, eh ben, il a la trouille de l'inviter au musée parce qu'il ne sait pas quoi dire, parce qu'il est démuni. Donc, il va au restaurant.
Quelle est votre solution par rapport à
la
ça
solution,
dans le milieu du 21e
siècle? La solution, c'est de redonner la perception d'un musée utile, d'un musée où je comprends des choses. Vous parliez de la culture. Moi, je suis frappé d'une chose. La culture générale, vous dites, elle est en perte de vitesse, etc., ce que vous avez dit tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Moi, je vois des jeunes qui se préparent à des concours administratifs et qui bachotent la culture générale avec des QCM, avec des annales, etc. Mais que ne le font-ils dans les musées?
Très bien, mais je suis d'accord.
Mais que les musées leur offrent-ils? Est-ce qu'on offre ça? Est-ce que les musées proposent, par exemple, du coaching culture générale en révision des examens? Non, on le fait pas. Et pourquoi on le ferait pas? Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas fini de parler,
oui,
à ce moment-là, le musée aurait, la pratique du musée aurait un sens et un jeune ne viendrait pas uniquement au musée parce qu'il est obligé par son école ou parce qu'il y a une nuit étudiante et qu'évidemment il va venir à la nuit étudiante. Mais on s'en fout de la nuit étudiante. Des nuits étudiantes, il y en a plein. Il y a médecine, etc., etc. Donc, du coup, on est face à, c'est bien ça, c'est redonner au musée son utilité. À quoi ça sert d'aller au musée? Pour le plaisir, mais pas que. Si je veux réussir dans ma vie, j'ai besoin du musée. Et ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on travaille assez.
Vous êtes en train de dire que le musée doit remplacer l'éducation nationale. Moi, je
non,
ne pense pas dire ça.
Bah, non,
si,
non,
vous dites qu'il
non,
doit,
non.
Il doit préparer son examen là. À un moment donné, le musée n'aura pas les moyens de tout faire.
Là, il n'y a pas de matière.
Déjà,
culture
si tu conserves les œuvres, si tu
les
montres bien
nationale.
Et dans les meilleures conditions, en les expliquant le mieux possible, c'est déjà pas mal. Vous voulez faire du musée une espèce de.
Je veux que
comment dire de,
je souhaite que
de réponse
les,
à tout.
Je souhaite que les visiteurs y trouvent un intérêt à aller au musée, d'où qu'ils viennent.
Voilà, et que en fait l'endroit soit hospitalier, bienveillant.
Et on est d'accord,
bah
bien
oui,
sûr.
Bah
il faut
oui,
des bancs, il faut par exemple pouvoir s'asseoir. Pourquoi dans les salles des musées on ne peut pas s'asseoir? Ça j'aimerais bien savoir.
Mais c'est bien ce qu'on dit. On le dit.
On le dit dans le rapport. Le
musée hospitalier.
Non, mais hospitalier ça veut rien dire.
Mais si.
Mais c'est
si,
le confort.
Bah, c'est le confort.
Et
bah, expliquer,
simplement, il faut des bancs dans les salles pour simplement qu'on puisse s'asseoir pour voir les œuvres.
Mais
ça, c'est quelque chose de très concret avec lequel
on
est parfaitement
confort,
d'accord.
On en parle.
Mais,
mais pas que des bancs. Pourquoi il n'y aurait pas des canapés, des tables basses et des tapis?
Oui.
Oui, pourquoi pas des aires de jeu?
Mais pourquoi pas?
Non, à un moment donné, le musée ne fait pas tout. Le musée ne peut pas tout. Le musée, il est là d'abord pour présenter les œuvres dans les meilleures conditions possibles, pour que chacun qui veut les voir puisse les voir et qu'elles soient bien conservées.
Si personne ne vient
les
voir, on n'a plus de raison de les conserver.
On vient nous dire qu'il n'y a pas.
On parle de l'avenir.
Personne ne vient les voir.
On ne conserve ces collections.
Je dis qu'il y a de plus en plus de monde qui vient les voir.
On ne conserve ces collections que pour des gens.
À la condition que ce monde soit accueilli.
Un petit peu paradoxal,
dans...
tout ça.
Mais non, Didier, c'est
fondamental. Et moi, c'est ce que
j'ai fait quelques cours
à l'INP. La première chose que je dis aux jeunes conservateurs, c'est de dire, nous ne conservons des collections que pour des gens.
Oui,
on ne les conserve pas
d'accord.
Dans l'absolu. Ça n'a aucun intérêt d'imaginer qu'une civilisation extraterrestre...
C'est pas tout à fait vrai.
Eh bien, moi, je ne suis pas du même avis. Personne ne viendra nous voir.
Un exemple contraire, la grotte de Lascaux, elle est conservée pour elle-même et pas pour des gens parce que personne ne peut la visiter et on la conserve quand même. Donc je pense
pour
qu'il y a
des gens.
Pas pour des gens.
S'il n'y a plus d'êtres humains sur Terre, il n'y a aucune raison de conserver ces collections. Donc on les conserve pour des gens. Donc ça veut dire qu'il faut transmettre aussi la curiosité, le goût et donc il faut que les musées retrouvent une utilité et pas simplement un événement où je fais comme tout le monde, je vais voir l'exposition dont on parle. Il faut que ça devienne une pratique qui est beaucoup plus naturelle et on en est loin. On ne peut pas dire le contraire. Et donc, on doit proposer diverses approches, et y compris, effectivement, la question du musée lieu de débat, la question du musée hospitalier, la question du musée confortable.
Vous organisez comment ces débats? Prenons un exemple. Vous
dites qu'il y a un café-musée. J'ai fait moi-même, j'ai animé, lors des journées du patrimoine, un café-musée sur la question du musée citoyen. J'avais plein de gens qui étaient là, qui me posaient des questions, il y avait des jeunes et des vieux, et ils posaient des questions toutes simples. Ils disaient, mais comment vous choisissez les œuvres que vous montrez? Mais les gens se posent ces questions-là. On ne leur répond pas.
Mais on ne les répond pas si... Comment dire? Ce que vous dites, ok, très bien, faire un café-musée. Mais je ne vois pas en quoi il y a besoin d'un musée du XXIe siècle pour faire cela.
C'est simplement redire ces évidences.
D'un rapport où, c'est pas, où tout ça n'est pas clairement exprimé.
Mais peut-être si que tout le monde le fait naturellement.
Très clairement exprimé si vous le feuilletez, si vous le lisez.
Bah je l'ai feuilleté, je l'ai lu.
Jusqu'au bout. Si vous regardez, en plus, il y a une collection d'exemples. Oui. Il y a une collection d'exemples.
Il y a un mot. Il y a un mot que vous avez brocardé. Il y a un mot que vous avez brocardé qui était le musée conversationnel. Ça, vous avez mis une belle attaque sur le musée conversationnel.
Parce que ce sont des mots.
Mais je non, mais je trouve, mais c'est pas d'esprit.
Mais je trouve que c'est légitime. Un musée où si on puisse parler, où on puisse discuter, où il n'y a pas un dogme
si on veut
absolu.
Parler de ce que j'ai brocardé, par exemple, désormais, le musée peut se vivre à 360 degrés et la visite être sans fin. Oui. Expliquez-moi ça.
Eh ben, écoutez, justement.
Vous avez 2 heures.
Non, mais il n'y a pas besoin de 2 heures. Il y a exactement, c'est l'idée qu'à la fois on visite le musée dans ses murs et où il y a une variété de propositions, justement, de lecture des collections. Je reviendrai là-dessus après.
Le prisme de l'histoire de l'art n'est pas le seul prisme.
Aussi, quand il sort de ses murs, quand il va vers des gens qui...
Oui, parlons-en des musées hors les murs.
Eh bien, on va voir. Oui, et puis, on voit aussi qu'est-ce que ça donne quand le musée se met à investir Internet, les réseaux sociaux. Et comment, finalement, entre le moment où on pense éventuellement à faire une visite, qu'on commence à la préparer, qu'on commence à se renseigner sur ce qu'on va voir, éventuellement à télécharger des contenus qui vont nous aider aussi.
C'est pas moi qui vais vous dire le contraire.
D'accord. Bon,
le fait
que on arrive, qu'on visite, que in situ on nous propose un certain nombre d'activités, que une fois rentré, on peut encore prolonger la visite et en débattre avec notre entourage. Tout ça fait que effectivement la visite est sans fin.
Donc, ce qu'on veut dire simplement, c'est qu'on doit oublier le musée image. Comme un dogme. Le musée comme un dogme, comme une religion, ça n'est plus possible.
Et comme un reliquaire.
Il n'y a que les musées, c'est un lieu où il y a des objets qui sont présentés, des œuvres qui sont présentées. Il n'y a pas que des œuvres, parfois il y a des objets. Et on doit pouvoir interroger ça, on doit pouvoir en discuter, on doit pouvoir... Le musée apporte un discours d'expert, c'est son rôle, mais c'est loin d'être le seul expert, et c'est loin d'être le seul discours. On doit être capable d'aborder toute une multiplicité de discours et d'être décontracté. Alors, par rapport à ça.
Peut-être qu'on part sur de mauvaises bases, parce que quand vous dites qu'on doit débattre, qu'on peut débattre, qu'on peut organiser un débat, ce que je fais d'ailleurs ici,
voilà.
Je le ferai aussi bien et je serai conservateur du
mais
musée, on pourrait très
au
bien.
Musée de Rouen,
mais avec
on
plaisir,
le fera
avec plaisir, on le fera sans problème. Il y a aucun souci avec ça. Quand on dit qu'on doit expliquer les collections avec des cartels qui soient explicatifs, pas forcément uniquement sur l'histoire de l'art, je suis d'accord
pas
également.
Des cartels.
Mais le problème, c'est qu'on parle du musée du XXe siècle. Finalement, ce qui m'a choqué moi personnellement, quand je dis que vous ne parlez pas des collections, oui, vous n'en parlez pas beaucoup, mais surtout le problème des musées du XXIe siècle, c'est pas ce que vous nous dites.
C'est lequel alors ?
Alors les problèmes du musée du XXIe siècle, ce sont les maires qui se désintéressent de leur musée et qui ne leur donnent aucun moyen.
Je veux répondre.
Effectivement, ça peut être les horaires de fermeture ou les musées fermés. Ce sont les réserves qui sont en très mauvais état et dans lesquelles des collections ne sont pas montrées et sont laissées à l'abandon. C'est tout ça le vrai problème.
Le vrai problème de cela, c'est l'utilité. Quelle est l'utilité du musée ?
Excusez-moi, si vous ne voyez pas...
Si le musée a perdu sa légitimité et son utilité, nous n'aurons plus de moyens, nous n'aurons plus d'horaires d'ouverture, nous n'aurons plus de réserves. Il n'y aura plus qu'un stockage qui ne servira plus à rien.
Les musées ne perdent pas leur utilité. Le problème,
s'il y a un divorce entre la population et les musées, nous perdons notre utilité.
Y a-t-il un divorce ? On vient de dire que non. Alors c'est là.
Il y a une stratigraphie des publics qui n'est pas satisfaisante. Il faut continuer à porter ce discours-là. On ne peut pas juste se satisfaire de l'audimat et de certains succès et d'une certaine démocratisation et s'arrêter là. On est face à une accélération de notre société. Aujourd'hui, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse, mais c'est juste un exemple. Mais aujourd'hui, on est dans... Alors, vous allez détester ça, la démocratie participative, parce que je sais que vous attaquez ça à le budget participatif, etc. Mais
pour d'autres raisons.
Pour d'autres raisons.
Vous avez parlé ce que vous avez fait au dernier temps des collections.
Mais
il
ne
m'a vraiment pas convaincu.
Mais ça ne vous a pas convaincu.
Pas du tout.
Simplement dire aux gens, écoutez, vous aussi... On peut discuter de ce qu'on vous montre. Il y a 3000 tableaux, nous en montrons 600 ou 800. Il y a des tableaux qui ne sont jamais sortis des réserves. Est-ce qu'on peut en discuter ou est-ce que c'est tabou ? On a toujours l'impression, quand on touche à l'histoire de l'art et au musée, qu'on arrive à un moment où il y a un dogme absolu, où il y a un tabou contre lequel on ne peut plus rien faire. Et ça n'est pas normal. Aujourd'hui, toutes les politiques publiques, elles doivent pouvoir être interrogées. Et on ne peut pas aller contre ça. Et se refermer devant ça et de dire passez votre chemin, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à discuter, ça n'est pas possible.
Entre il n'y a rien à voir, rien à discuter, et demander, mais après tout, cette expérience, pourquoi pas, simplement, moi j'étais un petit peu terrifié par l'expérience, parce que je ne sais pas quels sont les tableaux que vous aviez proposés, j'ai pas pu, parce qu'ils n'étaient plus sur
Internet. On va revoter, puisqu'on va rouvrir pour les jeunes
patrimoines, ça va m'intéresser de voir.
Un nouveau vote, avec l'argent de 8 musées.
Parce qu'effectivement, sur les orchestres des œuvres proposées, mais il faut reconnaître que cette salle était quand même assez, disons, décevante, décevante au point de vue qualité, et que le tableau qui avait eu le moins de votes était, à mon sens, le tableau le plus intéressant.
Est-ce qu'il est de votre goût ? Non, pas parce qu'il est de mon goût.
Je pense qu'il y a quand même. Est-ce qu'il faut dire au public, ben voilà, vous verrez ce que vous voulez, ou est-ce de leur expliquer pourquoi telle chose est.
Non, mais
peut-être
il ne faut pas caricaturer. Non, je suis d'accord, je veux bien qu'on débatte là-dessus. Le musée des Beaux-Arts de Rouen, c'est 60 salles. Sur ces 60 salles, le visiteur n'a rien choisi, à aucun moment. On lui donne la possibilité de choisir ce qu'il y a dans une salle. Mais je ne pense pas qu'on se dépouille de notre pouvoir régalien de décider ce qu'on met en salle et du sens que ça a.
Nous sommes d'accord.
On est d'accord. Simplement, je dis juste que c'est une collection. Non, pas du tout.
Non.
C'est une collection publique. C'est une collection publique et les gens payent avec leurs impôts pour nos salaires, l'entretien des bâtiments, l'entretien des œuvres. Attendez, je n'ai pas fini. Les chercheurs, ils ont accès aux réserves. On leur propose, on leur permet d'accéder aux réserves. C'est difficile de le faire pour le grand public. Ça veut dire que le grand public ne sait pas quelle est la face cachée du musée et ne sait pas quel est son patrimoine qu'il possède. Donc, on doit organiser cette rencontre.
Je vais mettre une pierre dans votre jardin parce que vous n'êtes pas le seul responsable de cette situation. Mais je suis d'abord complètement d'accord avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les œuvres qui peuvent être exposées, qui ont intérêt, à part évidemment des croûtes infâmes ou des tableaux en trop mauvais état pour être exposées, devraient à un moment donné être exposées. Donc il faut serrer le plus possible. Ils devraient être aussi publiés. Et là, je me permets de vous.
Bien sûr.
La collection Badrou, par exemple. Moi, je ne sais toujours pas ce qu'il y a exactement la collection Badrou. Et je pense que ce serait la responsabilité du musée des Beaux-Arts de Rouen.
Tout à fait.
De publier la collection Badrou parce que.
Collection Badrou donnée en 1975. Vous permettrez de ne pas récupérer
ça,
tout l'arrière.
Exactement. C'est pour ça que je dis que c'est pas vous qui êtes.
Tout à fait. Mais bien sûr.
Alors,
parlons des hors-les-murs. Je propose à tous les musées qui seraient intéressés un hors-les-murs sur la collection Badrou qui permettra de restaurer cette collection et de la publier.
Très bien.
Voilà.
Très bien. Non, mais j'étais sûr que vous alliez le faire.
Mais la collection Badrou, je vous signale que dans la chambre des visiteurs, il y avait un tableau de la collection Badrou qui n'avait pas été montré depuis plus de 20 ans.
Mais alors, revenons
et
sur cette.
Alors, dans la chambre des visiteurs, il y avait un tableau qui était un anonyme hollandais, on ne sait pas trop. On voit un chat qui regarde à travers une vitre cassée un serin dans une cage. Ce tableau provient de la collection Badrou. C'est un tableau pour lequel j'ai voté. Je vais vous dire, c'est le seul tableau pour lequel j'ai voté qui était dans la sélection. Et je m'en réjouis parce que le goût du conservateur ne peut pas être l'étalon absolu.
Mais on est absolument d'accord, et je regrette souvent, et ça vous serez sans doute d'accord avec moi, que certains conservateurs vont arriver, ils sont conservateurs d'art contemporain, ils vont dire finalement la collection ancienne ne m'intéresse pas, je la mets en réserve, ou l'inverse, éventuellement ils sont conservateurs d'art ancien, et une collection d'art contemporain qu'ils ne montrent pas. Le problème, quand il y a des réserves qui sont importantes, comme au musée de Rouen ou dans d'autres musées, c'est de, éventuellement, des grands chefs-d'œuvre, mais de faire tourner au maximum et de serrer un peu la présentation. Et plutôt que de demander au public ce qu'il veut voir, c'est de montrer tout ce qui est important, intéressant, le plus possible. C'est ça le truc, c'est pas de demander au public ce que vous voulez. Et dire que ça fait 10 ans que ça n'a pas été exposé, vous auriez pu l'exposer.
Il faut organiser la discussion et l'échange et le débat. Et il n'y a pas de politique publique qui ne doit pas être interrogée. C'est pas possible. Et dans les musées, on est le seul lieu peut-être où on n'interroge plus les politiques publiques.
J'interroge la politique publique, vous voyez, puisque je vous interroge.
Mais les deux ne s'opposent pas. Hein. Nous, on y est dans ce rapport pour redonner davantage de place aux collections permanentes et aux réserves. Et justement, on est contre une spectacularisation et un événementiel à tout craint. Donc là encore, vos critiques étaient un peu étranges. Sur le public qui collabore, qui co-construit finalement l'offre avec les professionnels du musée, c'est aussi une forme de s'initier à l'art, aux collections, aux œuvres. On parle beaucoup de musées d'art quand même. N'oublions pas quand même que les musées d'art, c'est 25% de l'offre muséale en France.
Tropisme la tribune
donc,
de l'art,
voilà,
excusez-moi.
Mais on ne peut pas faire comme si.
Dans la prochaine chambre des visiteurs, il y aura 8 collections de musées dans lesquelles vous pourrez choisir,
étant,
y compris des musées de société.
On voit, c'est une manière aussi d'apprendre à regarder les œuvres, de les comprendre aussi, de travailler à une sélection, à un
puisque en plus, il y a eu des rencontres avec les professionnels à cette occasion.
Avec un dispositif de médiation, on l'a vu chez Sylvain Rouen, on l'a vu depuis 10 ans à La Rochelle, au Musée d'Art et d'Histoire, on l'a vu...
À Grenoble, on peut citer l'exemple de Grenoble, du travail dans les quartiers.
À Poitiers. Bon, bref, ça, alors là, pour le coup, c'est une tendance... qui se développe et qui est assez annonciatrice de tout un tas de choses sur les nouvelles relations que peuvent entretenir les visiteurs avec les collections. Il n'y a pas que cet exemple-là. Vous demandiez tout à l'heure, c'est quoi le musée du 21e siècle
du point de vue de l'art. Est-ce qu'on peut donner 10 mesures à prendre, finalement 10 mesures
ce
à prendre,
qu'on a vu très bien, ben on en a donné un certain nombre. On a à la fois, c'est ça le rapport, c'était à la fois de repérer les enjeux majeurs et puis, en face de ça, de faire un certain nombre de préconisations qui s'appuyaient sur des exemples, sur des tendances déjà émergentes. Donc, on n'inventait pas
entièrement. J'ai bien vu les exemples, vous les citez dans les c'est pas dans des exemples très différents, des exemples que je trouve très bons, des autres moins mauvais. Il n'y a pas de choix, finalement, dans ces exemples.
Si vous le mettez en perspective avec le texte, les enjeux...
La synthèse m'a paru...
Mais ça, je crois que vous y êtes rentré
J'ai pourtant lu de manière attentive.
Moi, je crois que le maître mot qui doit gouverner le musée du 21e siècle, c'est l'ouverture.
C'est l'ouverture. C'est le fait que ce soit un musée.
Arrêtons d'être dans l'entre-soi, voilà, c'est juste pas possible.
Mais ça veut dire que le public doit pouvoir venir. Je suis absolument d'accord avec vous.
Mais il n'y a pas que ça. C'est à la fois aussi, il doit pouvoir venir.
L'entre-soi, on est entre nous, effectivement. Vous faites le travail que vous faites sur le temps des collections, j'ai eu maintes fois l'occasion de le célébrer. Effectivement, c'est un travail qui me paraît intéressant parce qu'il permet au milieu des collections permanentes, donc de faire revenir le public au milieu des collections permanentes,
C'était un projet d'ouverture, oui, avec des invitations lancées à des personnalités qui n'étaient pas du monde des musées, que vous n'avez pas forcément aimé d'ailleurs.
Oui, certaines que je n'ai pas aimées, effectivement. Oui,
lancées à des professionnels qui n'étaient pas des professionnels du musée, oui, d'autres commissaires, d'autres conservateurs, des scientifiques, etc. Donc c'est un projet bien d'ouverture, c'est-à-dire ouvrir les regards sur le musée.
Donc quand vous proposez à quelqu'un, Laura Adler...
À Christian Lacroix, ou Agnès Jaoui, ou Olivia Putman, ou d'autres.
Il y a des choses qui vont moins... Ouais. Si les gens n'ont rien à dire,
comme
Philippe Borde, Philippe Borde a des choses à dire, mais ça peut être... Mais il faut au moins que les gens aient déjà une propension à s'intéresser au musée. Je ne suis pas certain. Est-ce que Laura Adler est venue au musée pour...
Mais bien sûr. Ce que je veux juste dire, c'est que je veux le poser comme un dogme de base, un nouveau dogme, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul discours sur une œuvre d'art. Et souvent, j'apprends sur une œuvre d'art avec des gens qui ne sont pas historiens de l'art, y compris avec des enfants.
Donc
on doit être capable d'entendre ces voix-là.
On doit être capable de leur donner de la place.
Certainement, parce que vous en savez déjà beaucoup.
Non, mais peut-être quelqu'un d'autre.
Je suis pas certain.
En tout cas, quand on dit ouverture, on est aussi sur décloisonnement. Décloisonnement, mélange des genres, mélange des collections. Si on reprend l'expression de Jean-Hubert Martin, carambolage des œuvres, c'est une deuxième tendance assez importante de ce qu'on a pu voir et de ce que peut être l'offre du musée demain. Troisième chose, c'est le mélange des disciplines culturelles aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler... Il y a à la fois un mix des collections, donc on pourrait se retrouver aussi bien avec de l'art, des sciences, des techniques, des objets ethnographiques, mais il y a aussi... il y a de la chose muséale, et puis il y a du spectacle vivant, et puis il y a de la lecture, et puis
et donc,
il y a de la musique.
C'est
des clés d'interprétation, des clés d'entrée dans les offres. C'est une offre du musée.
Quand même, quand vous regardez un musée que vous aimez beaucoup, le musée Fabre à Montpellier, qui a fêté son 10e anniversaire.
Vous étiez conservateur.
D'ailleurs, on a fêté son 10e anniversaire, puisque j'y étais à l'ouverture, puisque je l'avais préparé avec mes collègues. Le week-end de la fête du 10e anniversaire, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est plusieurs milliers de personnes qui sont venues pendant un week-end, on va dire 15 000 personnes ou 20 000 personnes qui sont venues pendant un week-end. Les gens sont venus parce qu'il y avait événement, parce qu'il y avait aussi du vivant dedans. Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir. On se dit, tiens, sur un week-end, on peut mobiliser 15 000 personnes avec du vivant.
Qu'est-ce que vous appelez du vivant ?
Eh bien, il y avait des lectures, de la danse, des rencontres, des visites avec les conservateurs, etc. etc. Bon. Mais je prends cet exemple, mais bien sûr que ça existe ailleurs. Mais on voit bien quand même que le musée qui est capable de se mobiliser en s'ouvrant dans la collaboration avec des troupes de théâtre, avec d'autres, avec des artistes qui vont venir présenter leurs œuvres, etc. Le musée qui est capable de mobiliser aussi son équipe dans un projet. Bon, eh bien, on va être capable aussi de transcender le musée et de faire en sorte que tout à coup, il devienne la chose de tous. Et c'est ça que l'on veut. Et on ne peut pas y arriver simplement en étant sur notre quant à nous. On est obligé de donner aux visiteurs autre chose que cette image du musée qui est la caricature du musée que les gens ont en tête. Écoutez les hommes politiques, écoutez les journalistes, quand ils veulent dire que quelque chose appartient au musée, c'est pour dire qu'il est appartient au cimetière. Donc,
vous employez le terme vivant.
Mais c'est pour ça que j'ai dit.
Que le reste n'est pas vivant, c'est ça qui m'ennuie.
Mais non, mais simplement, un musée, c'est un lieu de vie. C'est un lieu où on séjourne. Donc ça veut dire si on séjourne qu'on doit pouvoir être dans un confort, dans un accueil, dans une disponibilité, dans aussi des ressources qui sont mises à ma disposition. Et ça, ça semble être des banalités, mais je pense que le musée du 21e siècle, c'est le musée où je suis chez moi. Personne ne peut s'offrir les collections qu'il y a dans les musées. Et pourtant, elles sont la propriété de tous. Le musée devrait être le prolongement de la maison de chacun. Voilà, c'est tout. Et il faut réussir à ces conditions-là. Sauf qu'en ce moment, il y a plein de gens qui ne passent jamais les portes du musée parce qu'ils s'y sentent illégitimes. Illégitimes. Parce qu'un musée, ça ressemble à une préfecture, à un hôpital.
Il y a des gens
on n'a pas envie d'y rentrer. Voilà.
Non, mais attendez, il y a des gens, sans vouloir dire qu'un musée ressemble à un hôpital, je connais plein de musées qui ne ressemblent pas à des hôpitaux.
Bah, le mien, il ressemble à une préfecture.
Comment ça, il ressemble
à le palais des Beaux-Arts de Rouen, c'est un édifice qui, en soi, est un
musée
énorme.
Du 19e siècle.
C'est un magnifique musée du 19e siècle, le deuxième construit en France après celui d'Amiens. Effectivement, un très beau bâtiment, mais c'est un bâtiment extrêmement impressionnant. Et pour un très grand nombre de nos concitoyens, ce sont des bâtiments dans lesquels on ne pénètre pas parce qu'on en a peur.
Alors quand vous dites effectivement ça va être chez soi, ça peut être chez soi ailleurs, puisque, et ça c'est une chose que je pense on doit manipuler avec une grande prudence, parce qu'on est là pour conserver des œuvres et on est là pour les montrer à ceux qui viennent les voir. Vous parlez effectivement, alors là c'est la grande mode en ce moment, donc il y a évidemment le Louvre-Lens et puis il y a tous les... Le musée doit être ailleurs, il doit être dans les entreprises. Ça, c'était la dernière idée du ministère de la Culture. Je ne sais pas s'il va le mettre en œuvre. Mais pour moi, ça ne me paraît.
On l'a mis en œuvre.
Ça me paraît une hérésie totalement.
On a réalisé cinq expositions, micro-expositions, dans cinq entreprises. Ouais.
Combien de personnes ont pu les voir, à part les personnes d'entreprise? Je ne sais pas. Les entreprises, non.
Si. Absolument. Bon, écoutez, dans certains cas, oui.
Pour moi, c'est vraiment la négation de ce qu'est le musée, justement. Et ça devrait être l'inverse. C'est l'inverse de ce qu'est le musée, pour moi.
Il y a le musée qui parvient à faire venir les gens à l'intérieur. Et puis, il y a quand même des gens qui, pour une raison ou pour une autre, sont éloignés du musée. Et effectivement, il faut aller vers ces gens, leur montrer que, justement, l'offre du musée peut leur correspondre, peut les intéresser. Et effectivement, de toute façon,
on ne peut pas ne pas avoir un peu de prospective dans les musées. Il faut bien se confronter aussi à des problématiques qui sont du réel. On est bien obligé aussi de se poser des questions. Quand vous accueillez un public spécifique, par exemple, vous accueillez par exemple, des publics de la rue. Évidemment que c'est pas ça qui va faire la fréquentation des musées. Mais simplement, le seul fait d'accueillir ce public-là...
Le
public des SDF. Les gens qui n'ont pas de logis. Accueillir ce public-là, ce n'est pas accueillir n'importe quel public. Vous êtes obligé, quand vous faites un programme comme celui-ci, de vous reposer des questions que vous ne posez plus avec un public qui est acquis. Je veux dire, évidemment que le public Télérama, Camif, Maïf, Éducation nationale, il nous est acquis et il est merveilleux et on l'aime. Mais c'est une zone de confort absolu. Donc nous devons nous confronter à d'autres réalités, simplement pour réinterroger nos modes de médiation, nos modes d'appropriation. Et on avance en faisant ça. Et bien sûr que c'est un tout petit public.
Mais
c'est la même chose. C'est un programme expérimental.
De s'installer ailleurs que dans le musée, d'aller dans des endroits, dans des entreprises, dans des usines pour montrer les œuvres.
Il y a une question de conservation des œuvres. Ça pose un problème. Soit vous amenez des œuvres qui n'ont pas grand intérêt, et ça déjà c'est un petit
mais
peu.
Mais c'est pas ce qu'on
soit
a fait.
Soit vous avez des œuvres importantes. Et dans ce cas-là, le public qui vient voir les œuvres dans les musées, bah, il est privé de ses œuvres.
Alors, non, monsieur Rickner, est-ce qu'on serait capable de prêter des tableaux au Metropolitan Museum et on ne serait pas capable de le prêter plus près de chez nous, dans des lieux où ils auraient peut-être un usage beaucoup plus limité, mais qu'ils auraient une audience d'une autre...
Les œuvres sont visibles dans les musées.
Elles
voyagent,
les
œuvres. Nous sommes d'accord.
Mais on est d'accord.
Nous sommes d'accord. Les envoyer n'importe où ne paraît pas une bonne politique de conservation.
Il faut juste objectiver les choses, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que déplacer des œuvres, quel type d'œuvres peuvent être déplacées, quelles sont les conditions dans lesquelles elles peuvent être montrées, et il ne faut avoir aucun a priori. C'est juste, on regarde les choses posément, sans a priori.
Sur cette expérimentation qui a été faite en 2014.
Quelles étaient les œuvres et où ?
Alors, il y a eu des œuvres. Il y a eu une œuvre de Fernand Léger qui a été exposée chez Renaud à Flins dans un des ateliers. Il y a eu une série d'œuvres de Guimet, des sculptures de Guimet qui ont été proposées à une Sotis, qui est une entreprise de cosmétiques à Brive. Voilà. Il y a des œuvres du CNAP qui ont été exposées dans un des sites de RDF près de Bordeaux. Des œuvres de Chagall, des gravures qui ont été exposées près de Lyon. Et
des œuvres des coins exposées au port de Rouen.
Voilà. Alors, avec un cahier des charges, justement, de manière à ce que les œuvres soient déplacées dans de bonnes conditions, installées dans de bonnes conditions, et présentées, expliquées et discutées aussi dans de bonnes conditions. Donc, ça veut dire que c'est aussi une opération un peu lourde, mais qui n'est pas infaisable et qui, face aux salariés des entreprises qu'on a pu rencontrer et toucher, qui a connu un véritable succès. Et qui a, alors, non seulement ça a déclenché un intérêt pour ces œuvres, mais le montage de l'opération incluait également des musées locaux, je pense à Brive, par exemple, où le musée Labinche était dans le coin, et où tout d'un coup, finalement, entre l'entreprise Sotis, ses personnels et le musée Labinche et ses professionnels, il y a des liens qui se sont noués, des liens durables, et où maintenant il y a des activités qui sont organisées par le musée pour les salariés. Donc, de toute façon, l'idée de sortir les œuvres, c'est pour amener le public dans les musées. C'est une manière. Mais on peut penser à autre chose aussi. On peut penser à ces soirées papotages du musée de Quimper où, dans des cafés, il y a des discussions autour de projections d'œuvres. Et on pourrait évoquer aussi Laurent Buzyn au Grand Ornu qui sortait les œuvres sous
Buzyn
le bras.
Laurent Buzyn qui fait des expositions où on déplace des
œuvres sous le bras
et aller
discuter chez ses voisins.
La légende en Belgique, si Laurent Buzyn est très apprécié.
Oui, par certaines personnes, peut-être pas.
Des albâtres, hein, et là un albâtre malheureusement a été cassé.
Il y a des pièces qui sont cassées. Oui, mais... quand on les prête à tel ou tel musée, il y a des pièces qui sont cassées.
Non, c'est juste Laurent Buzyn, c'est pas une personne.
Dans les musées, si vous ne l'appréciez pas, je peux vous dire que c'est quelqu'un d'extrêmement.
C'est-à-dire, on peut pas balayer toutes ces initiatives d'un revers de main en disant tout ça c'est de la démagogie. Il y a des précautions à prendre, ce sont des expériences qui nous enseignent des choses. Et quand vous allez travailler avec les salariés de Flins à Renault, eh ben vous mettez en danger. Et donc, vous mettez en danger, vous vous bordez aussi. pour que ça se passe bien. Que ça se passe bien pour la conservation des œuvres, que ça se passe bien dans la discussion, que ça se passe bien avec les gens avec qui vous allez parler. Mais je veux dire, allons un peu au contact aussi.
Et alors, vous choisissez, ça me fait penser aux expériences de Sciences Po qui va choisir 3 ou 4 zones défavorisées et va les faire rentrer
plus
facilement.
Mais c'est devenu le quotidien des musées.
Laissez-moi terminer.
Laissez-moi terminer. Pour élargir
ça me fait penser
public
à cela. Et qu'est-ce qui se passe finalement? Sciences Po a dit, ces 3 ou 4 zones-là, là, ils vont pouvoir rentrer plus facilement. Alors, tous les autres, ils peuvent toujours, on s'en fiche. Là, vous allez mettre ça dans une entreprise. Alors, faites ça dans toutes les entreprises. Vous ne le faites pas. Mais sauf que non, vous ne pouvez pas le faire dans toutes les entreprises.
Mais bien sûr,
il faut faire venir les gens dans les musées. Ça, je suis d'accord avec vous.
On a réussi
dans les meilleures conditions possibles. Je ne suis pas certain qu'amener les œuvres dans les entreprises pour 10, pour 500, 1000 ou 2000 personnes, ça soit la bonne idée.
Posez-leur la question, mais ils seront ravis, bien entendu.
C'est comme les gens de Lens sont ravis d'avoir le Louvre Lens. N'empêche que tout le reste de la France n'a pas le Louvre Lens, et quand il doit aller à Lens, il est obligé de passer par Paris.
Mais à Lens, il n'y avait pas de musée.
Non, mais il y avait Lille, il y avait Arras.
Et c'est pas à Lens.
Il n'y a pas de musée, de toute façon, à Lens. Il y en a un. Oui, alors on pourrait parler de Lens. Parlons de Lens, parce que pour vous, je pense que Lens doit être l'alpha et l'oméga finalement de la.
On n'a pas dit ça.
Non, je pose la question.
On peut être aussi sur des opérations beaucoup plus modestes.
Moi, j'ai connu un centre d'art à Fréjus, un centre d'art contemporain que François Léotard avait lancé, qui était dans un hangar, dans une zone industrielle. Eh bien, j'y ai vu des très belles expositions.
Un centre d'art contemporain, ça
Il y avait des aspects. C'était de l'art contemporain qui était dans des collections. C'était des collections publiques qui étaient montrées dans ce lieu. Je dis juste qu'une initiative qui était simple, qui était j'ai un hangar, il est climatisé, il est sécurisé, j'organise des expositions. C'est dans une industrielle, peu importe, je m'en fiche, je le fais. Eh bien, moi qui à l'époque étais instituteur, eh bien, je faisais le déplacement depuis Nice pour aller à ces vernissages-là. Et j'y ai découvert, par exemple, on y a découvert des œuvres de Hartung inachevées.
C'est pas différent.
C'était dans un lieu qui n'était pas un musée, qui n'était pas dans une zone industrielle, c'était pas dans un bâtiment patrimonial, etc. Eh bien, à un moment, on était bien au contact de quelque chose de différent, sur une autre interface. Voilà.
Je suis désolé, je pense que si ce que je comprends, que vous m'expliquez,
ce lieu
c'est
n'existe
différent.
Plus.
Ce lieu était finalement un lieu où la conservation des œuvres n'était pas en danger. C'était une exposition qui était mise en place. Mm-hmm. Donc finalement, c'était une exposition et qui était ouverte à tout le monde.
Oui.
Bon, donc c'est très différent. C'était une exposition qui était dans un lieu qui ne posait pas de problème. Donc ça pouvait être considéré comme une exposition normale. En revanche, ce qui me choque, c'est quand vous mettez des œuvres qui appartiennent à tous dans un lieu où seule une partie des personnes pourront le voir. Et que tout le monde ne pourra pas le voir.
C'est sûr, quand elles sont en réserve, on les voit beaucoup mieux.
Ah ben non, mais attendez, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, comme vous le savez. Attendez, excusez-moi.
C'est tous et chacun aussi.
Avant de conclure.
Je veux dire, quelques-uns de tous, c'est quand même aussi
mais
important.
Juste, c'est toujours...
Et plusieurs centaines de tous, c'est aussi important.
Ce sont des initiatives qu'on ne devrait qu'encourager, Didier. Toutes ces initiatives, toute cette inventivité des musées pour à toute force aller conquérir des gens qui ne viennent pas au musée, pour sauver des collections, pour les valoriser, pour les faire connaître, etc. Mais que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans leur musée, soit dans leur réserve, que ce soit au café, mais tout ça, c'est merveilleux. Mais on devrait être tous derrière.
C'est pour sauver des collections, oui, je suis d'accord. Pour tout,
mais on les sauvera si elles ont un sens pour les gens.
Là, on ne parlait pas de sauver des collections. Certaines choses avec lesquelles que vous préconisez, certaines, je suis d'accord, certaines d'autres pas. Donc, on n'est pas dans un bloc contre tout, etc. Je pense que, j'espère en tout cas que les auditeurs l'auront suivi. Je voudrais, avant de conclure, parce que vous donnez plein de solutions que moi je n'ai pas lues. J'ai vu des exemples, mais je n'ai pas vu, dans la synthèse en tout cas, je n'ai pas vu toutes ces solutions expliquées.
Parce que c'est dans une nouvelle langue, c'était donc illisible.
C'est tout à fait vrai. Je vous remercie de le dire. En revanche, il y a 3 mesures sur lesquelles j'aimerais revenir. Il faudrait créer une web TV des musées de France. D'accord. Qui le fait? Avec quels moyens?
La tribune de l'art.
Je n'ai pas les moyens, malheureusement, de le faire et je ne suis pas le porte-parole.
Mais vous pourriez répondre à un appel d'offres.
Alors, on s'est inspiré, en fait, d'une web TV qui existe à Cité des Sciences sur les questions donc, de culture scientifique.
Je serais assez d'accord pour une web TV.
Et donc, en fait, c'était une manière aussi d'illustrer ce que pouvait être cette fonction de débat, justement, ou cette fonction de musée, forum culturel permanent. Donc, en tout cas, il y a une institution qui dépend du ministère de la Culture, qui en tout cas sait faire, et le fait déjà.
Je vais vous dire, l'année prochaine, au Musée des Beaux-Arts de Rouen, nous allons fabriquer des tutoriels. Voilà, ça c'est un nouveau format. Les jeunes sont toujours avec un tuto, avec un tutoriel.
Oui, mais c'est une bonne idée, ça.
Eh bien voilà, donc du coup, on est sur des initiatives qui sont juste inventives.
Tout à fait, mais on est d'accord, là on parle plus des œuvres, vous faites un tutoriel, je suis absolument d'accord avec ça. Ce qui me gêne, c'est quand on prend les œuvres et qu'on les déplace pour quelques-uns avec des risques réels, parce qu'on ne déplace pas les œuvres sans risque, sans que ça soit pour une exposition qui représente quelque chose. Ça me gêne, ça m'a toujours gêné et ça me gêne encore.
Il y a beaucoup d'œuvres qui se déplacent dans des expositions en pure perte.
Ça c'est vrai, on est tout à fait d'accord et des fois je le conteste.
Parlons-en.
Et les privatisations d'espace dans les musées, ça vous choque
pas? Ah si, ça me choque beaucoup, particulièrement par exemple dans des musées comme le musée de la ville de Paris, au musée du Petit Palais, où vous avez tout un espace à droite où on pourrait poser beaucoup d'œuvres. Et c'est vide parce que ça doit être privatisé pour apporter de l'argent. Ça me choque beaucoup.
Oui, mais moi, la privatisation, c'est un mot que je n'aime pas.
Ça dépend quelle privatisation.
Cependant, j'ai pu mesurer à quel point, à travers des locations d'espace, je touchais des publics que je ne touchais pas.
Mine
de rien, quand j'ai 70 notaires qui viennent au Musée des Beaux-Arts de Rouen pour passer une soirée, etc., c'est des gens qui n'étaient jamais venus au musée.
Non, attends, je ne suis pas opposé.
Il n'y a pas que les banlieues qui viennent au musée.
Bien sûr, je ne suis pas opposé à la privatisation ponctuelle des musées, parce que le soir, de toute façon, les musées sont fermés. Donc, si vous faites venir 70 notaires qui vont être dans le grand atrium où vous pouvez recevoir des gens, où ils peuvent manger éventuellement, et ça ne pose aucun problème. Ensuite, ils peuvent aller dans les collections. Ça ne prive personne de rien et ça vous apporte des ressources. Donc, je ne suis pas complètement fermé à ce genre de choses, bien entendu. En revanche, quand un musée ne présente pas une partie de ses œuvres, ou même une grande partie de ses œuvres, et qu'un espace est uniquement dédié au fait de recevoir des gens, ça me pose problème. Voilà. Mais donc,
le musée du 21e siècle doit être capable de jongler avec toutes ces dimensions-là, de tout faire. Et c'est vrai que disposer d'un espace pour accueillir des groupes.
Votre musée protéiforme, il n'est pas clair. Enfin, il est peut-être plus clair maintenant.
Disposer d'un espace pour débattre, disposer d'un espace pour inviter, disposer d'un espace pour recevoir, ça fait partie des fonctions du musée de demain. On peut en parler aussi.
Alors, un manifeste pour un musée humaniste. Là, j'ai été très méchant. J'ai dit, on en rit déjà. Qu'est-ce que c'est qu'un musée humaniste? Enfin, si, j'ai cru comprendre ce que c'était. C'est pas une solution. Enfin, vous allez faire un manifeste, ça va être très bien. On va faire son manifeste. Et puis, quelque part, ça manque un peu de concret, je trouve.
Qu'il n'est pas écrit.
Il est en cours d'écriture. Il est donc en cours de rédaction sous la direction d'Alexia Fabre.
Très bien.
Directrice du MacVal à Ivry.
Très bien. Alors, ce qui m'a le plus un peu sidéré, c'est la création d'un bureau de la créativité muséale au service des musées de France. Je pense que vous savez dans quel état est le service des musées de France, avec des services. Je veux bien, évidemment, vous ne pouvez pas en parler, vous avez un devoir de réserve, donc je vais moi en parler. Un service des musées de France qui est quand même très sinistré, avec un certain nombre de services qui sont en sous-effectif, qui ne, pour le moment, à mon sens, quand on parle avec les musées de province, et je sais que vous ne pouvez rien dire, vous ne direz rien, mais n'est pas toujours dans le rôle de conseil, d'avertir. Enfin voilà. Un nouveau service de créativité muséale, excusez-moi, ça me paraît un petit peu absurde.
Moi, je crois que vous êtes complètement dans la caricature de ce qu'est le ministère
de l'Intérieur. Je le pratique beaucoup l'extérieur et j'ai un peu de mal.
Et je peux vous dire qu'effectivement, comme dans toutes les administrations, il y a eu des réductions du nombre des agents. Il n'en reste pas moins que ceux qui sont là ne ménagent pas leur peine.
Non, mais ça, je l'ai jamais dit.
En centrale,
pas du tout.
Et en administration décentralisée, parce que vous faites aussi comme
pas
si
du tout.
Tout,
pas
se
du trou- tout.
Tout se passait rue des Pyramides et qu'il n'y avait rien autour. Parce qu'en fait, ça, c'est constamment. Alors, je suis très décontractée, puisque, en fait, finalement, donc, je ne fais plus partie du personnel du ministère de la Culture. Donc là, je peux dire ce que je veux, mais vous dire que ces gens ne déméritent pas, loin de là, et avec, en plus, la plupart d'entre eux, un très grand professionnalisme. En réalité, vous êtes. On a exactement la même chose en administration. Que dans les établissements, on a effectivement des gens qui ont beaucoup de boulot, qui ont des conditions de travail qui sont souvent pas exceptionnelles, mais c'est des gens qui sont de vrais professionnels et c'est des gens qui sont qui sont des composants, des agents actifs du service public. Donc c'est pas possible de dire sans arrêt il se passe rien, ils ne font rien, tout le monde est désespéré. C'est pas vrai.
Attendez, alors là je voudrais quand même rectifier ce que vous dites, parce que c'est absolument pas ce que j'écris, et j'écris souvent.
Oui,
je suis parfaite.
Mais
laissez-moi parler.
Relisez quelques-uns de vos derniers.
Laissez-moi parler. Non. Je ne m'attaque jamais aux personnes qui travaillent au sein de ces directions, parce que je sais que la plupart d'entre elles, pas toutes, la plupart d'entre elles sont à la fois... Oui, pas toutes. Mais non, c'est impossible.
Oui, comme partout.
Comme partout, on est tout à fait d'accord. Mais la plupart d'entre elles sont extrêmement dévouées, travaillent énormément. Mais malheureusement, ils ne sont pas suffisamment nombreux. C'est juste ce que j'ai dit. Laissez-moi parler, ils ne sont pas nombreux et ce n'est pas la faute.
Alors
ça
là,
pas leur faute.
La création, je vous signale que
ça
la création, ce bureau de l'innovation muséale qui est justement, qui va servir à diffuser, encourager, soutenir, financer de l'innovation, eh ben c'est de la création de postes aussi. C'est de la création de postes. Donc, tout ce qui peut aider le réseau des musées de France, puisque c'est de ce réseau-là, hein, c'est-à-dire les musées nationaux, mais les musées territoriaux, tout ce qui peut les aider est bienvenu, et y compris les budgets. Et vous ne pourrez pas être contre ça, j'imagine.
Ce que j'ai dit, justement, c'est que s'ils ne peuvent pas mener toutes les missions qu'il faudrait, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux, parce qu'il y a eu des réductions d'effectifs qui n'ont pas été menées comme elles auraient dû l'être, c'est-à-dire les supprimer là où c'est pas nécessaire et ne pas les supprimer là où c'est nécessaire ou même les renforcer. Simplement, on constate qu'ils ne sont déjà pas suffisamment nombreux pour mener leur mission de base. Donc, faire la créativité des musées, malheureusement, je crains que créer un poste pour faire la créativité des musées pendant, alors que, à côté de ça, ils n'ont pas les moyens
de faire quoi? Ils n'ont pas les moyens.
Déjà, ils n'ont pas les,
un exemple précis.
Je vais vous dire un exemple, par exemple, ils n'ont pas les moyens de répondre aux demandes que l'on fait, qui sont légitimes, qui sont acceptées par la commission d'accès aux documents administratifs, c'est-à-dire de nous répondre, mais même de nous répondre simplement en répondant quels sont les trésors nationaux qui vont sortir, etc. Par exemple, c'est une chose que le ministère de la Culture, manifestement, n'a pas le temps de faire. Mais d'autres choses, ça peut être de prévenir et d'avoir une veille sur les acquisitions auprès de leurs collègues de province. Parce que la plupart des collègues de province se plaignent d'être seuls. Non, c'est pas uniquement le rôle des grands. Avant, c'était le rôle du service des musées de France et maintenant, ça ne l'est plus. C'était à la fois les grands départements et le Louvre et c'était aussi le service des musées de France. Ils n'ont plus le temps de le faire. Beaucoup de musées de province se sentent abandonnés. Vous ne pouvez pas le dire là parce que vous êtes
dans la sous-direction des collections n'y est pas indifférente. Et il y a un travail qui se fait en région, au sein des DRAC, par les conseillers.
Vous me demandez des exemples.
J'ai un contre-exemple.
J'ai
un contre-exemple. Oui. L'expertise sur les musées nationaux récupération des œuvres spoliées récupérées par les Alliés, elle est bien au ministère, au service des musées de France. Et donc les musées de région peuvent s'appuyer dessus.
Mais on est tout à fait d'accord.
Donc ça n'existait pas avant.
Non, mais attendez.
Sylvain,
vous prenez un exemple tout à fait à part.
Je ne veux pas un exemple à part. C'est un exemple fondamental. C'était un problème qui n'était pas traité. Et aujourd'hui, on s'est donné les moyens de le traiter. Et moi, personnellement, au Musée des Beaux-Arts de Rouen, j'ai pu, grâce à Thierry Bajou, publier l'intégralité de mes MNR sur le site et dans la revue. Voilà. Et donc, c'est bien un service qui a été donné par les musées de France.
Je peux vous répondre sur ce point-là, bien entendu. Effectivement, sur les MNR, le ministère de la Culture fait maintenant tout le travail qu'il doit faire, mais vous savez pourquoi, bien sûr, et c'est très bien, et il ne manquerait plus qu'il ne fasse pas, mais vous savez qu'il le fait parce qu'il a été suffisamment accusé de ne pas le faire, et que par rapport à, c'est quand même un sujet très sensible et qu'il ne peut pas se permettre de ne pas le faire. En revanche, quand il s'agit d'aider les musées pour des acquisitions, pour des restaurations, etc., c'est beaucoup moins le cas, et vos collègues le disent, je ne sais pas si vous le dites, et en tout cas ici vous ne le direz pas parce que vous ne pouvez pas le dire, et je le comprends, mais vos collègues largement le disent, et vous savez que je connais bien les conservateurs des musées français.
Le champ d'expertise sur les musées, il est très vaste. Je veux dire, on a besoin d'expertise, pas simplement sur les acquisitions, sur les restaurations.
C'était un exemple. Exemples.
Oui, mais on a aussi besoin, par exemple, d'expertise sur les bâtiments. Moi, je sais qu'à Montpellier, nous avons pu bénéficier d'un architecte conseil qui a suivi l'ensemble du projet de restauration. Il était bien payé par le SMF.
Vous me donnerez. Bien entendu, heureusement, il y a encore une partie des choses qui sont faites parce que j'ai dit par des gens très compétents.
Ce que je veux dire, c'est
que simplement, suffisamment nombreux.
L'éventail des sujets d'expertise sur lesquels nous avons besoin d'appui, il est très vaste. Alors, on peut penser qu'il y a un couteau suisse multifonction au service des musées de France, et on ne trouvera pas toujours la lame qu'il faut, peut-être, certainement. Néanmoins, simplement, ce rapport, il a permis de constater une chose, c'était la créativité. Il a permis aussi de constater combien il était intéressant de pouvoir échanger et partager pour mettre en valeur. Et donc, il y a une forme de pérennisation de ce moment-là à travers la création d'un poste. poste. À un moment, quand on incarne une fonction, quand on choisit d'incarner une fonction, on pose un geste. En posant un geste de dire la créativité dans les musées, elle est intéressante, elle peut justifier l'existence d'un conservateur ou d'un poste, d'une personne qui va être amenée à repérer, à développer, à faire connaître toutes ces solutions créatives qui émergent à droite et à gauche, eh bien je trouve que on pose un geste qui n'est pas inintéressant. On pourrait se dire, oui, mais bon, voilà, le rapport maintenant, il est sous la table, il est enterré, et passez votre chemin. Non, il y a une fonction qui perdure de dire, les musées ne pourront s'en sortir que s'ils innovent, que s'ils inventent, et c'est merveilleux si vous êtes capable de tout inventer tout seul, mais c'est quand même vachement plus simple si on partage les innovations et comme on l'a fait dans le cadre de ce rapport.
Alors, je donne la parole à Claude Alain. Éventuellement, si vous pouvez, donc dire ce que vous avez à dire là, éventuellement, si vous avez d'autres sujets que vous souhaitez aborder rapidement pour conclure, et ensuite, je passerai la parole une dernière fois à Sylvain, et éventuellement, j'essaierai d'apporter une conclusion. J'espère que, en tout cas, le débat a été vif, c'est bien, c'est tant mieux, ça s'appelle l'art du débat, j'espère qu'il a été clair pour les auditeurs.
C'était pour revenir sur le partage des tâches, d'une certaine manière. Une des conséquences aussi du rapport, c'est de relancer ces grands départements patrimoniaux, justement, et justement relancer le rôle des musées nationaux par rapport à leurs collègues territoriaux. Donc ça, c'est aussi une retombée positive sur... peut-être pas du côté de l'acquisition, mais en tout cas de la circulation,
c'est un exemple,
les acquisitions de la circulation des œuvres, des dépôts, des prêts, de l'aide à la fabrication d'expositions, enfin tout un tas de projets, et y compris des choses qui pourraient être portées vers l'international. Donc là aussi, en prenant en compte les différentiels entre les différentes catégories de musées de taille, avec un paysage quand même des musées de France extrêmement hétéroclite, hétérogène, avec des établissements dont plus de la moitié fonctionnent avec moins de 10 personnes. Donc on voit bien que là aussi, il y a besoin de coups de main, et ce rôle des grands établissements nationaux, il doit être joué, et ce rôle de mutualisation. Et ça, c'est un autre thème qui est sorti de nos débats, de nos forums, c'est la question de comment on fait ensemble. Et ça aussi, c'est le musée de demain. C'est comment on fait ensemble. Comment on mutualise les compétences, on mutualise les œuvres, les dispositifs, comment on mutualise aussi d'ailleurs les publics. En tout cas, comment on travaille ensemble. Et comment et ça, c'est un discours aussi qui porte chez les élus.
Sylvain, pour conclure,
il y a quelque chose, je souscris tout à fait évidemment à ce qui a été dit par Jacqueline, puisque à Rouen, c'est tout ce que nous avons fait, mutualiser, travailler ensemble, plutôt que d'inventer un nouvel équipement qui n'existait pas, mettre en ordre l'existant et le faire collégialement. L'autre chose que ce rapport pointe, il y a tout un groupe qui a travaillé dessus, c'est la question des personnels des musées. Et des carrières, et de l'organisation des musées, et des nouveaux métiers, des nouvelles professions. Si on ne se pose pas ces questions-là maintenant, quand est-ce qu'on va se les poser ? Un musée, le musée de demain, il est obligé de se réinventer, il est obligé de se réorganiser. Il y a de nouvelles fonctions à assumer. Il faut penser cette fonction organisationnelle. Il faut aussi penser la question des carrières. Moi, j'ai entendu Jean-Luc Martinez interpeller très directement la ministre sur la revalorisation, par exemple, des salaires dans le monde des musées. Et je pense que c'était important de le dire.
C'est très important.
Voilà. Mais au-delà, quand je parle carrière, nous avons quand même aussi, dans les musées, des personnels à plusieurs niveaux qui sont dans des formes d'impasse. Et il faut trouver des solutions. Les personnels d'accueil et de surveillance, les personnels qui ne peuvent pas passer de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État, etc.
Je l'ai souligné dans l'article,
etc.
C'était un des points sur lesquels je suis
évidemment
complètement d'accord.
Donc je veux dire, on ne peut pas dire que ce rapport était juste un rapport de novlangue, etc. Il pose des problèmes très très concrets. Si les musées de demain doivent se mettre en ordre de marche pour survivre aux évolutions qui se présentent à nous, eh bien il faut aussi qu'ils soient capables de se réinventer dans leur organisation et dans leur profession. Et donc, nous avons posé un certain nombre de choses. Je rappelle quand même que les fonctions publiques territoriales et la fonction publique d'État ne sont pas compatible et que nous sommes formés dans le même institut, l'INP, depuis 30 ans,
je suis d'accord avec
depuis
vous,
30 ans, sans qu'on puisse passer d'une fonction publique à l'autre. Je vous rappelle quand même, ça c'est un de mes credos, que quand on passe de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État, on passe devant une commission d'évaluation scientifique. Expliquez-moi quand est-ce que les collègues de l'État passent devant une commission d'évaluation scientifique quand ils viennent travailler en région. Donc il y a des aberrations totales, des freins à la mobilité, et ce qui fait la force des musées, c'est l'enthousiasme, et l'enthousiasme, ça demande de l'agilité et de la mobilité. Et on tue les musées à leur imposer des gabarits dans lesquels ils ne peuvent pas survivre. Mais ouvrons les fenêtres, ouvrons les portes, ouvrons les statuts pour qu'on soit toujours sûr de l'enthousiasme et des gens volontaires. Parce que sinon, on se referme, on reste prisonnier de son établissement, on y finit sa carrière et ce sont des musées qui meurent.
Conclusion de Sylvain, donc, et vous-même.
Et dans la foulée de ce que vient de dire Sylvain, il y a justement une des retombées, les assises national des métiers de la formation des musées qui seront organisés au mois de décembre. Donc en réalité, la plupart finalement des pistes qu'on a ouvertes, la plupart des enjeux qu'on a repérés, la plupart des exemples de référence qu'on a donnés, finalement, vont constituer le ferment justement de ces musées du 21e siècle qui ne sont pas que des musées d'art.
Mais écoutez, je vous remercie d'être venu débattre. Vous voyez que la tribune de l'art est ouverte, même si effectivement nous ne sommes pas d'accord sur un certain nombre de points. Je pense que nous sommes d'accord avec quelques points quand même, je vous rassure.
Oui, c'était pour ça.
Je vous rassure. En tout cas, vous avez pu expliquer de manière détaillée ce qu'était ce rapport de musée du 21e siècle. Après, les auditeurs, s'ils ont pu suivre nos débats, je pense que oui. Même si nous avons de temps en temps parlé en même temps, c'était un peu la passion. Et puis, il n'y avait personne pour modérer. Finalement, j'étais modérateur et j'étais en même temps participant. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Et nous reviendrons bientôt avec une prochaine émission de l'Art du Débat.